La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ça fait un peu plus d'un mois que nous ne nous sommes pas replongés dans le dictionnaire des titres. Et aujourd'hui est donc une émission profondément pédagogique qui va d'ailleurs nous permettre de sortir de la lettre S.
La lettre S, à laquelle nous sommes arrivés depuis un moment déjà, ben nous allons la finir.
Et nous allons donc terminer cette émission en prenant le T.
La lettre.
Et nous commençons par un morceau très connu, très joué en Nouvelle-Orléans, dans le répertoire Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Sugar.
Sugar, ça veut dire plusieurs choses. Bien sûr, ça veut dire le sucre.
Le sucre.
Mais en réalité, ça a une autre connotation. La fille qu'on appelle Sugar Woman, c'est la petite qui rapporte bien de l'argent à son mec. Voilà.
Et le type qu'on appelle Sugar Man, c'est un type très très généreux avec sa petite.
Et sympa, et qui lui offre tout ce qu'elle demande.
D'ailleurs, dans les paroles du morceau, la demoiselle dit « Il est formidable, c'est mon Sugar Man. Il me donne tout l'argent que je veux et il ne m'en demande jamais. »
Oh, le rêve.
Pensez. Le compositeur de ce morceau, qui s'appelait Maceo Pinkard, a composé beaucoup d'autres standards, en particulier le fameux Sweet Georgia Brown. Et c'est intéressant de savoir que là, c'est la création du morceau, c'est la toute première version.
Et c'est toujours avec la chanteuse Ethel Waters. Parce qu'Ethel Waters et Maceo Pinkard, c'était un peu les deux doigts de la main.
Ils étaient certainement très proches. Ethel Waters a créé beaucoup de morceaux de Pinkard, je pense dans des revues souvent, puisque c'était la grande époque des revues, plus que des disques, mais les a enregistrés. Et pour cette plage que nous allons vous faire entendre, eh bien c'est Maceo Pinkard lui-même qui tient le piano. Peut-être serez-vous un peu étonné de la couleur musicale de cette création, mais il faut savoir qu'Ethel Waters, c'est la mère de toutes les chanteuses de jazz qui sont venues après, et en particulier d'Ella Fitzgerald. Sugar!
The one that takes the place of one I used to call baby doll. It ain't new, it ain't old, but if you do what you're told, you'll find the answer if you take a look in Mr. Webster's dictionary book. The name is Sugar, I call my baby my sugar. That is the reason why, maybe, that sugar baby is mine. I'm shouting about him, funny, he doesn't spend any money. All he can lend me is honey. That he can send any time. I'd make a million trips to his lips if I were lucky, 'cause they are sweeter than any candy to me. That's why I'm sighing, sugar. I get my taffy from sugar. What's more, I'm happy about sugar, that sugar baby of mine. Thank you. sugar knows I'm just sweet on my sugar. No, I won't cheat on my sugar. That sugar baby of mine.
Le morceau suivant s'appelle Sunny Land.
Le pays du soleil.
Eh bien, Sunnyland, c'était pas du tout un pays.
C'était un train qui allait de Saint-Louis à San Francisco.
C'est pas très bien par où, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que San Francisco, c'est au bord de la mer, c'est considéré comme un pays de rêve où il fait toujours beau.
Ah bah, tu parles de la Californie, c'est la Californie.
Ah,
ah bah oui.
Et puis, c'est un pays plein de vie. C'est très jeune, la Californie. Ça a toujours été.
Ça illustre aussi la multiplicité des réseaux de chemin de fer et de leur interconnexion aux États-Unis avant-guerre, parce que à chaque fois qu'on tombe sur une chanson qui parle de train, on est sur des réseaux qu'on ne connaît pas.
L'échelle de ces voyages, c'est invraisemblable pour nous. Nous, notre plus grand voyage, il fait 1000 km. Là-bas, c'est 4 fois plus. Le train, c'est absolument obligatoire, je dirais, parce que les gens bougent. Mais ils bougent dans des proportions qui sont bien plus immenses que ce que nous avons l'habitude de considérer.
Et surtout, les musiciens que nous écoutons, qui bougent autant que tout le monde, mais qui, eux, bougent dans les wagons de marchandises, dans des coins perdus, pour échapper à la police ferroviaire, et qu'on appelle les hobos.
Alors ça, c'était quand même... C'est pas maintenant, hein, c'était il y a longtemps.
Ouh, je crois que...
Les Noirs avaient strictement pas la possibilité de payer un billet à 2000 ou 3000 kilomètres. Donc il fallait le système D, qui était parfois très dangereux.
Sonny Boy Williamson, que nous allons entendre, c'est le plus grand harmoniciste de blues. C'est presque lui, pourrait-on dire, qui a inventé le blues à l'harmonica. Il est mort, agressé par des gens qu'on n'a jamais retrouvés et qui l'ont assassiné à coups de crochet à glace.
Et on pense que ces gens lui en voulaient pour une raison qu'on ne sait pas, mais en tous les cas, on ne les a jamais retrouvés.
C'est resté mystérieux.
Voilà.
Mais à peine était-il mort qu'un autre Sonny Boy Williamson s'est fait connaître, qui s'appelait en réalité Rice Miller, qui prenait totalement sa suite, un harmoniciste également. Et celui-là, on l'a bien connu, puisqu'il est venu en Europe, et c'était un type assez étonnant. Mais là, nous écoutons le premier Sonny Boy, un musicien, un bluesman absolument fantastique.
Now here goes this funny line, running on this Frisco line. Here goes this funny line, running on this Frisco line. Now that the same train comes to Jackson, you know and stole that little woman of mine. Lord, every time I hear that lonesome sunny land blow, every time I hear that lonesome sunny land blow, now you know it make me feel lonesome.
What, man?
Lord, just because I want to go.
I'm coming.
I hear the Indian lemon blue is with lying the fireman wrong is in bell. I heard the Indian lemon blue is with lying the fireman wrong is in bell. Lord, did I hate it to tell my baby.
What, man?
Baby, fare you well.
Let me see him, Mr. Sonny Boy. Let me see him.
Nah, but that's all that I know. My baby ain't going to stay always. But that's all right, I know. My baby ain't going to stay always. Now she will get this set, now I'm thinking.
What, man?
Yank can come running back home someday.
I do now.
Boy, if I am blue, not glory.
Beat it out, boy.
down diamond, Lord, any dirty angel.
Yes,
why they sure they treated me dirty.
Wow.
And took my baby away from him.
Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais dans les propos de notre harmoniciste et chanteur, il dit Frisco. Et Frisco, ça veut dire San Francisco. Presque tout le monde avait employé cette contraction de San Francisco en Frisco.
Mais ça se dit encore, d'ailleurs.
Et même encore maintenant. Oui.
Mais il ne dit pas par où ce train passe. Il se contente de dire que sa petite est partie par ce train-là, finalement. C'est la raison un peu étouffue, il ne sait pas par où elle est passée, mais il espère bien qu'elle va revenir, quand même.
Oui, oui, c'est l'espoir. Hein.
Et nous voici maintenant au Sunset. Et il s'agit du Sunset Crystal Palace.
Alors là, ce n'est pas du tout à San Francisco, à Frisco. C'est à Kansas City.
Cette boîte de Kansas City, c'est un club qui a laissé beaucoup de traces.
C'était un endroit particulier que les musiciens aimaient beaucoup parce qu'ils s'y retrouvaient après avoir joué pour leurs engagements de musiciens. Et là, c'était pour le plaisir, vraiment.
Ça s'appelait After House comme moment. Et naturellement, il s'agit de jam session dans le plein sens du terme. La jam session spontanée. Et on a vu à Kansas City, au Crystal Palace, au Sunset, des batailles de saxo-ténor dont on parle encore.
Oui, c'était assez concurrentiel, hein, parce que les musiciens voulaient s'y montrer les meilleurs possibles. Hein.
Et il y avait une brigade de saxo-ténor locaux qui ne laissaient pas leur part au chien, et qui d'ailleurs sont devenus après des gens de tout premier plan sur la scène new-yorkaise. Et le pianiste maison du Sunset était le fameux pianiste de boogie et de blues, Pete Johnson.
Ah ouais, connu là.
Et chose étonnante...
Le barman.
Le barman était un barman chantant. Et il s'est mis à chanter en tant que barman, parce que c'est vraiment, au départ, le barman de l'établissement.
C'était presque à la limite, il y avait un petit trou musical, hop, il s'y glissait.
Et c'était tellement formidable que finalement, ils ont travaillé ensemble, enregistré, et le barman a peu à peu quitté ses bouteilles, ses verres et ses clients. Il s'appelait Big Joe Turner. Et il a fait une carrière absolument exceptionnelle.
Tout à fait.
Eh bien, en l'honneur de cet établissement où il a dû d'ailleurs lui-même sans doute beaucoup sévir, et à la tête d'un grand orchestre, voici Lips Page.
Dans Sunset Blues.
Thank you.
Eh bien, maintenant, on va à un autre Sunset, le Sunset Café.
Oui, parce que Sunset, qui veut dire d'ailleurs...
Coucher de soleil, tout simplement.
À ne pas confondre avec Sunrise, qui est le lever du soleil, quoique quand on entre dans des boîtes comme ça au coucher du soleil, on en sent quelquefois bien souvent au lever du soleil. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous quittons donc Kansas City et le carrefour entre la 18e rue et Highland Avenue pour nous rendre à Chicago. Cette fois-ci, nous sommes dans la 35e rue, en pleine prohibition.
Il y a là un jeune homme, ou un tout jeune homme, qui voit pour la première fois son nom en lettres lumineuses sur le fronton du Sunset Café.
Ah, ça quand même.
Quand ce même, jeune homme,
c'est
quelque
qui chose. C'est Louis Armstrong qui débarque au Sunset Café, dont le propriétaire n'est autre que...
Joe Glazer. Vous me direz, vous en parlez comme si Joe Glazer était connu universellement.
Mais bien sûr que Joe Glazer est connu universellement, et surtout dans son village de Chicago.
Il a une sacrée histoire, Joe Glazer.
C'était simplement le comptable d'Al Capone.
Peste.
Et détail piquant, fort de cette rencontre de 1926, il est devenu et est resté jusqu'à la fin de sa vie, à lui et de la vie de son illustre client également, le manager de Louis Armstrong.
Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a déjà un grand moment, on a fait une émission sur le jazz et les gangsters. Eh bien, en voilà une illustration. Et c'est intéressant parce que là, on peut dire que Louis Armstrong, c'est quelqu'un qui avait une vie parfaitement nette, qui n'a jamais été malhonnête, qui a toujours été nickel. Et mais pourtant, il avait comme manager le comptable d'Al Capone.
Oui, mais il faut savoir que, comme nous le disions à l'époque, ce sont les gangsters qui ont fait la promotion du jazz, et en particulier du jazz noir.
Ces gangsters, à cette époque-là, ils avaient énormément d'argent et ils possédaient les trois quarts des boîtes où les musiciens jouaient. Donc ils avaient intérêt à pas être mal avec eux.
Dans ce morceau, vous entendrez une intempestive chanteuse qui avait comme spécialité de prêter son nom à sa copine Alberta Hunter quand Alberta allait enregistrer en dehors de son contrat d'exclusivité.
C'était une sorte de chanteuse de paille.
C'est le souvenir que laissera May Alix. Sunset Café Stomp.
Thank you.
Et hop, on reprend le train.
On retrouve Sunshine.
Le train s'appelle, justement, Rayon de Soleil.
Sunshine. Et vous avez remarqué, Sunset, Sunshine, tout ça avec le soleil, ça plaît, hein?
Ah bah ça plaît, puis en plus c'est un train qui va de Saint-Louis en Californie. Mais comme c'est un autre réseau que tout à l'heure, il n'y va pas par le même chemin. Là, celui-là, on sait qu'il passe par la Nouvelle-Orléans. Donc il descend le Mississippi pour commencer.
Au fond, il fait le parcours des bateaux à roue à aube.
Ce fameux parcours qui a amené tant de musiciens de la Nouvelle-Orléans vers Saint-Louis puis Chicago après. L'homme qui chante ce train, qui a sans doute eu l'occasion de le transporter, c'est le fameux Blind Lemon Jefferson.
Alors blind, vous le savez, ça veut dire aveugle, et il y a beaucoup de chanteurs aveugles.
Mais là, on est en plein troubadour, parce que Blind Lemon Jefferson, c'était un type qui allait pratiquement de village en village, avec un guide, c'est-à-dire un jeune chanteur et guitariste comme lui, à qui il apprenait le métier. On se croirait en Auvergne à la haute époque, hein, finalement, dans un sens. Il y a certainement des histoires de cabretteurs du même genre. Hein.
Oui, oui, et en remontant vers le Moyen-Âge, on a des images de Bruegel, un jeune homme en train de guider un aveugle qui est musicien. Hein.
Et après de qui il apprend le métier. Bon, on est dans le même cas de figure, sauf que là, Blind Lemon Jefferson est seul devant le micro avec sa guitare, et il chante ce train qui lui tient sans doute à cœur et qui est le...
Sunshine.
Sunshine Special. Et hop, on saute d'un train dans l'autre, voici le Super Chief.
Ah, celui-là, il n'a rien d'un train pour hobos, hein.
Ah non, c'est le contraire du précédent.
C'est le luxe absolu.
C'est un train qui va de Chicago à Los Angeles, mais il est du réseau de la Topeka and Santa Fe Railroad, c'est-à-dire qu'il passe par le sud et le Nouveau-Mexique. Et s'il s'appelle Super Chief, on peut se poser bien des questions. On peut penser que ce train traversait l'ancien territoire de bien des tribus indiennes célèbres comme les Navajos, les Utes et les gens comme ça, même les Apaches.
D'où le nom Super Chief, peut-être.
Mais.
Mais on y mangeait tellement bien que peut-être il y a une allusion culinaire dans cette affaire.
Oui, car un des grands moyens de promotion de Super Chief était de faire savoir que la carte de son restaurant était comparable à celle du Maxim's de la rue Royale à Paris.
Peste.
Voulez-vous quelques détails ?
Ah oui, 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 ça, je sais qu'il est 5 heures et que vous avez quand même déjà déjeuné, mais vous avez peut-être une petite faim.
Si j'ai une petite faim, voici de quoi la calmer. La carte du Super Chief vous proposait des crevettes de Gaïmas, du caviar Malossal, de la truite des montagnes rocheuses meunières avec des capres, des steaks dans le filet épais comme le pouce et avec une sauce très
raffinée.
Des cailles du Mexique en aspic, et peut-être même en sarcophage, allez savoir, pour ceux qui ont vu le Festin de Babette, film que nous recommandons hautement. Des fromages français, naturellement, du jambon de Westphalie, et des fraises en toute saison.
Les gens qui vont manger tout ça ont quand même une excuse, il y a 39 heures de train.
Oui, mais dis donc, tu te rends compte, à l'époque, 39h30 pour faire 4000 km.
À l'époque, c'était extraordinaire, oui.
Et avec ça, eh bien, nous avions de la veuve Clicquot, du mum et du champagne cuvée Dom Pérignon.
C'est vous dire que le train n'était pas vraiment gratuit.
Toutes les célébrités de Hollywood ont pris ce train pour aller d'est en ouest et retour.
C'était donc l'aristocratie ferroviaire.
Tu te rends compte, une salle de cocktail, une grande salle à manger, des salons particuliers pour les parties.
Et même des bureaux pour travailler.
Et même des bureaux. C'est pas étonnant que quand l'orchestre de Count Basie, en route pour Hollywood, s'est retrouvé dans le Super Chief, ils étaient tellement frappés qu'ils ont décidé de faire un morceau avec. Et Buddy Tate, qui joue dans ce morceau, qu'on entend au saxophone ténor, nous a raconté un soir à quel point cet arrangement de Jimmy Mundy était extrêmement stressant et méticuleux.
Super Chief.
En voiture. Thank you. Ben, il s'en passe des choses en 3 minutes dans ce train-là.
Vous avez entendu ? À un moment, les trompettistes font le bruit du sifflet du train. Ouh, ouh.
Et même l'arrivée en gare avec le petit jingle, peut-être du haut-parleur de la gare, d'ailleurs. Ta-da-da-da-da.
Allez, on va quitter les trains. Maintenant.
On va quitter les trains. Nous sommes maintenant à Chicago avec l'orchestre de Jimmy Noon. Et nous allons entendre un morceau très célèbre qui s'appelle Sweet Lorraine.
Sweet Lorraine, comme disait Laurent, c'est très connu. Et c'est un morceau qui a lancé Nat King Cole. Qui était cette Lorraine ?
Qui était Nat King Cole ? Il faut quand même dire un petit mot là-dessus. Nat King Cole était un pianiste fabuleux d'ailleurs, qui jouait en trio dans une boîte, où un ivrogne a exigé qu'il se mette à chanter. On ne discutait pas les ordres des clients en ce temps-là. Nat King Cole a réfléchi 3 secondes et a chanté Sweet Lorraine. C'est eu tellement de succès qu'il l'a fait tous les soirs, qu'il en a fait un disque et qu'il est devenu crooner. Et
voilà. Ah oui. En plus, c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque. On adorait ces chants, je ne dirais pas sirupeux, mais il y avait quand même beaucoup de douceur dedans. Ah
ben, c'était la mode des crooners.
Oui,
disons-le.
Oui.
Mais là, nous sommes bien avant. Nous sommes encore dans une époque où la douceur n'a pas tout à fait la même sonorité. Et celle de l'orchestre de Jimmy Noon était célèbre, puisque c'était un des très rares orchestres Nouvelle-Orléans de Chicago à ne pas avoir de trompettiste. C'était juste clarinette et saxo alto, et ça fait un alliage sonore tout à fait délectable. Et pourtant, ce morceau a été composé par un trompettiste.
Qui s'appelait Natty Dominic, et dont la femme adorée s'appelait Minerva, alors ça c'est moins rigolo. Mais Lorraine.
Eh oui, c'était Madame Minerva Lorraine Dominique. Évidemment, s'il avait appelé ça Sweet Minerva, ça n'aurait pas sonné comme
non.
Il faut. Sweet Lorraine, c'est quand même beaucoup mieux.
Thank you. Quel beau morceau, à la fois superbe et un peu mélancolique. Et je trouve que c'est un hommage merveilleux d'un mari à sa femme.
C'est
mais
vrai.
Dans ce que nous allons entendre en suivant, c'est tout sauf l'hommage des maris à leur femme.
Non, là, nous entrons dans le glauque. Et comment dire, ça s'appelle « Swinging at the Daisy Chain ». Alors, « Daisy Chain », ça désigne, comment on pourrait dire ça pour ne pas choquer les oreilles juvéniles ? Eh bien, ça désigne le loisir collectif le plus prisé d'un monsieur qui a eu beaucoup d'ennuis au Sofitel de New York. On peut le dire comme ça.
Oui, voilà.
Voilà, nous n'en dirons pas plus. Et ce terme d'argot a été carrément officialisé, car l'établissement dans lequel nous nous rendons maintenant, c'est
le Daisy Chain.
Ça s'appelait comme ça. C'est tout dire. Alors, vous n'êtes pas forcé d'y aller, mais on peut au moins en avoir un écho musical. Et nous allons quand même dire quelque chose d'assez amusant, c'est que la patronne de cet établissement s'appelait
Valentine.
Et que le petit bout de piano que vous entendez pour annoncer notre émission est extrait d'un disque qui s'appelle
Valentine Stamp,
par lequel Fats Waller a rendu hommage à la dite et la susdite
Valentine.
Quoi qu'il en soit, l'orchestre de Bézi, fraîchement débarqué à New York et qui n'avait pas encore goûté au Super Chief, a tenu à marquer le coup d'une visite collective dans cet établissement. Et le morceau s'appelle donc
Swinging at the Daisy Chain.
Tout le monde connaît le fameux Mesmero, clarinettiste qui a terminé sa vie en France d'ailleurs, après être venu dans les années 50. Or, Mesmero, clarinettiste, était également, à l'époque de sa vie américaine, et d'ailleurs il a beaucoup d'ennuis à cause de ça, un approvisionneur extrêmement coté de Marie Ravel. À tel point que chez les musiciens qui en consommaient, un joint s'est appelé un mez. Et le morceau que vous allez entendre, qui s'appelle
Swinging with Mez,
qui a été composé par Mesmero et enregistré par Mesmero, pouvait donc aussi bien vouloir dire en swingant avec Mesmero que en swingant avec un petit dopage de plus. Et c'est là où il faut bien dire que ce genre de pratique n'a jamais rien apporté de particulier aux musiciens et à leur talent vu de l'extérieur, c'est ce que m'a dit un jour mon prof de trompette. Il me disait, tu sais, ils avaient l'impression qu'ils avaient fait des choses extraordinaires, mais ils jouaient comme d'habitude, c'est tout. Et Mesereau avait un élève. Alors là, je parle de la clarinette. Il n'est pas un disciple en fumette, mais en clarinette.
Qui a pris le nom de Little Mez.
Il jouait tellement comme son maître que tout le monde l'a appelé comme ça. Et nous avons eu la bonne fortune, au Dumoustier, de compter dans nos rangs ce clarinettiste-là. Et on a donc enregistré un morceau qui est d'ailleurs le Swinging with Mez, mais on l'a baptisé, naturellement.
Swinging with Little Mez.
Voici maintenant une idée de symphonicide. Qui était symphonicide ?
C'était un disque jockey, donc vous voyez que ça existe depuis un certain temps. Et il organisait des concerts, des soirées. Il programmait les gens. Alors vous pensez qu'un type aussi important, on pouvait au moins lui dédier un morceau quand même.
Oui, surtout que là, c'est lui qui avait eu l'idée de base du thème, paraît-il.
Oui, et puis ça lui a fait plaisir.
On n'en doutera pas. Ce symphoniciste était quand même un sacré bonhomme, il avait un bagout absolument terrible. Il a fait ses débuts dans une obscure station de radio du Bronx, avant peu à peu de faire son chemin dans toutes les autres stations new-yorkaises. Et on raconte qu'il a même été disc-jockey pour une station de Boston, c'est dire le rayonnement du personnage. Puis dis donc, après quand même, hein, organiser des concerts au Town Hall ou programmer le Royal Roost, ou, c'était quand même pas mal. Hein. Alors Lester Young, qu'il connaissait, s'est emparé de l'idée de Symphonicide et en a fait un morceau qui s'appelle naturellement Symphonicide Heidi, qui est également connu sous le nom de Jumpin' with Symphonicide. Et d'ailleurs, ça a été plus tard l'indicatif d'une émission de radio sur le futur France Inter. Je crois que ça s'appelait Jazz aux Champs-Élysées.
Nous avons fini les S et maintenant on attaque les T.
Ah, nous allons prendre le thé et en bonne compagnie pour commencer. Elle s'appelle Annie.
Tac, Annie. Tac, ça veut dire le clou. Alors on se dit, elle était peut-être très grande, très mince, anguleuse. Ouah, elle n'était pas que anguleuse physiquement.
Non, on ne connaît pas son vrai nom d'ailleurs. Mais Annie le clou, c'était une bonne femme très connue à l'époque de la prohibition de Chicago, dans le quartier sud. C'était une noire particulièrement costaud et qui avait un caractère terrible.
Il y a certains types qui s'en souviennent à leurs dépens parce qu'elle leur passait des volées.
Ah, il n'y a rien qui l'arrêtait. Hein. Elle était aussi coriace qu'un bonhomme. Elle jouait au poker, elle buvait comme un trou, elle fumait comme un pompier et elle avait l'insulte facile.
En somme, Une belle figure de reître.
Une belle figure, oui, comme tu dis. On pense aux cantinières de l'ancien temps, finalement. Hein. Et l'endroit, son quartier général, qui était un saloon sur State Street, était près d'un coin de rue qu'on a surnommé à l'époque...
La place Tack Ennis.
Tack Ennis Place. Et puis, elle a un peu disparu de la circulation, mais un musicien nous a affirmé l'avoir entendu chanter à la fin des années 40, à Boston, Massachusetts, dans un bistrot où on faisait du chili.
Et pourtant, Dieu sait que Boston, les gens y sont terriblement bien élevés.
Quoi qu'il en soit, King Oliver lui-même, avec ses Dixie Syncopators, a dressé un portrait musical de Tack Ennis. Que voici.
Il n'y avait pas qu'Annie à avoir la tête comme un clou. Il y avait plein de gens qu'on appelait « take head », c'est-à-dire des gens qui ont la tête comme un clou. On peut dire que c'est la tête dure.
Bah oui, crâne de pioche.
Comme on dit quelquefois, ou ça peut par extension vouloir dire qu'il est vraiment, vraiment bête.
Crâne de pioche. Le morceau qui vient s'appelle
« Take Head Blues ».
Il a été enregistré par Alex Hill. Pianiste, est un solo de piano. Et c'est Alex Hill, qui était un excellent arrangeur et un musicien très connu et coté à l'époque, a très peu enregistré sous son nom, en fait, un seul 78 tours, dont nous vous passons la face B.
Vous vous rendez compte, quelle chance!
Et heureusement que nous avons une bonne documentation et des archives solides, parce que sinon, vous auriez été privé aujourd'hui d'Alex Hill et de son
Take Head Blues. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.